Je suis très heureux de vous retrouver sur la Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Merci surtout pour votre fidélité sans cesse renouvelée à la Nouvelle Génération. Nous sommes au jeudi 18 juillet 2024. Il sonne 11h passées alors de quelques instants sur la Nouvelle Génération. Et merci de nous choisir pour ce quatrième numéro de l'émission Club de la Presse. Et bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco Vitor Guitomega est à la mise en onde, Jérôme Dakoucha sur la mise en ligne, je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo, grâce à nos radios partenaires. Il y a Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé dans les plateaux, et Sky FM à Badou, plateau également, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapaan. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, et à savoir YouTube et aussi Facebook, et aussi des radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi et aussi des invités. Mais n'oubliez pas, déjà à partir de midi, vous aussi, vous pouvez entrer en ligne, participer à ce débat avec nous, puisque cette émission est interactive. Vous avez le droit alors de participer à cette émission aussi à partir de midi. Confrères journalistes qui est en studio avec moi, ou qui sont en studio, j'allais dire, avec moi, il y a Jean Legrand Polerini. Jean, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour confrères au studio, bonjour technicien derrière la baie vitrée, bonjour à tous les auditeurs et auditrices du Club de la Presse de Canal FM. J'ai saisi l'occasion pour présenter mes condoléances à l'ONG COJD, entendu par la Cercle d'orientation des jeunes pour le développement, dont le président fondateur, M. Siti Haïté, a tiré sa révérence il y a 2 semaines. Dans un accident de circulation. L'accident est survenu 1 semaine après sa réélection à la tête du conseil d'administration. Il faut dire que l'ONG a beaucoup œuvré dans la commune Golf 1. Beaucoup en témoignent, notamment, elle était axée sur les jeunes, l'environnement, la promotion des jeunes et beaucoup de choses, la salubrité. Donc c'est une grande perte pour la commune du Golf 1. Et le monsieur a été inhumé vendredi dernier, mais les obsèques traditionnelles auront lieu la semaine prochaine. Et c'est également l'occasion pour moi de présenter les condoléances à sa famille biologique, la grande famille Siti Danero, et également aux membres de l'ONG COJD, que la terre lui soit légère.
Nous présentons aussi nos condoléances à la famille, même d'ailleurs, de cet illustre disparu, et aussi paix à l'âme lors du disparu, bien sûr. Alors, Ambroise Pondo, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour ceux qui sont autour de la table, Jean, en l'occurrence. Bonjour les auditeurs et auditeurs de Radio Canal FM. Moi aussi, j'ai eu plusieurs plaintes. Et moi-même, je suis victime de cette situation de nuisance sonore dans le quartier à Kato, au niveau de l'église catholique.
Ah, nous sommes dans le Golfe 7.
Oui, c'est insupportable. C'est insupportable au point que les gens augmentent le volume à un décibel insupportable, inimaginable. Même à 1 kilomètre, puisque les gens sont situés vers la partie nord du bar, le vent souffle de l'ouest vers l'est et au nord. Vous n'imaginez pas, je ne sais même pas, ceux qui sont à 50 mètres, à 100 mètres peuvent dormir. Le volume est trop élevé. Et vous ne pouvez pas dormir. Je ne comprends pas certaines personnes. Ça y est, le simple problème de te mettre à la place de l'autre pour sa sérénité. Le bruit même tue. Le bruit tue des gens. Le bruit détruit le cerveau. Mais eux, ils sont contents dans cette ambiance de haut décibel là, qui est insupportable. J'en appelle à la commune, au maire et à ses agents de la commune Golf 7. Parce que personne n'a besoin d'écrire un courrier pour dire que ils n'ont qu'à juste venir dans la zone entre 21h et minuit. Hier, c'est à 1h du matin. Et bizarrement, à 6h, ils reprennent. À 6h, vous allez encore entendre. Ça dit que comment on peut. Certains peuvent avoir cette conception-là. je ne sais pas s'ils se saoulent avant d'augmenter le volume. C'est-à-dire que ceux-là même qui sont dans le bar, ils ne peuvent même pas communiquer. Parce que les gens sont à 1 km 500 mètres, ils n'arrivent pas à dormir. J'en appelle aux responsables de la commune Govset de s'en occuper. Parce que là où ta liberté s'arrête, c'est là la liberté de l'autre commence. Mmh. Ce n'est pas possible. Je viens d'avoir un message qui a aussi un bar au niveau de Toti. Un bar d'un certain joueur, moi je ne connais pas le nom, qui fait le même bruit. Il faut que ça cesse.
D'accord. Il faut que ça cesse. C'est un message qui est bien d'écouter. Et je sais quand même que les autorités, ou du moins les autorités municipales, vont également se pencher alors sur cette question pour régler le problème. Alors oui, Jean-Paul Erény.
Oui, il faut que ça cesse. Mais ce que Amboise dit est pertinent. Mais il faut également savoir qu'aujourd'hui, nous avons des textes qui réglementent le bruit que nous devons faire. Quand il y a un bruit excessif, il faut porter plainte. Comme on l'a dit, beaucoup de Togolais n'ont pas la notion de porter plainte. Allez vous plaindre au niveau des autorités compétentes et on va redresser ces gens dans les normes. Aujourd'hui, on ne peut pas permettre que des gens se croient tout permis. Voilà, une fois qu'un bruit vous dérange, vous faites la démarche vers la personne, 2-3 fois, la personne ne comprend pas, mais vous portez plainte. Et les autorités viendront fermer.
Et c'est votre droit.
C'est votre droit. Au niveau des lieux de culte, ça s'applique. Et au niveau des bars et consorts, ça doit également s'appliquer. Et je crois que c'est aux Togolais de porter plainte pour que la situation dans ces quartiers qu'il a nommément mentionné puisse s'arrêter.
D'accord. Nous avons envie alors de parler de l'immigration clandestine et aujourd'hui. Et comme le sujet nous intéresse, nous avons fait appel quand même à quelqu'un qui s'intéresse aussi au sujet. C'est Brett Fiaga. Brett, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes le président du Conseil international pour l'immigration, l'entrepreneuriat et l'emploi si international. C'est bien ça?
Bien sûr.
D'accord. Alors, c'est vrai que quand on parle alors de l'immigration clandestine, c'est un phénomène quand même qui a cours et qui est tellement récurrent aujourd'hui. Ça ne concerne pas que le Togo. Il y a beaucoup de pays, surtout d'Afrique, où cela concerne, puisqu'il y a beaucoup d'Africains qui se retrouvent alors clandestinement dans les pays d'outre-mer. Alors, et finalement, dites-moi, quel est aujourd'hui le tableau de cette situation?
Merci beaucoup et salutations à mes aînés qui sont autour de la table et salutations à tous les auditeurs et auditrices. Et la question que vous venez de poser est pertinente, mais avant d'essayer de peindre un tableau, on doit d'abord s'attaquer aux causes de l'immigration clandestine. Tout d'abord, c'est quoi l'immigration? L'immigration, c'est l'entrée dans un pays. Maintenant, l'immigration clandestine, c'est quoi? C'est l'entrée illégale, l'entrée discrète dans un pays. Vous quittez le Togo, au lieu de passer par la frontière de Kodjo-Yakopé pour rentrer dans le Ghana, vous avez préféré passer par Bitinaï quelque part, qui n'est pas contrôlé, et les autorités ghanéennes et même les autorités togolaises ne savent pas que Bright Yaga a quitté le Togo pour le Ghana. C'est clandestine. Maintenant, pourquoi les jeunes Africains? L'immigration clandestine ne concerne pas seulement l'Afrique. Ça concerne tout le monde entier. Et l'immigration ne date pas d'aujourd'hui. Et on ne va pas dire que l'immigration n'est pas une bonne chose. L'immigration, c'est une très bonne chose. Et le CIE n'a pas l'intention d'interdire l'immigration à qui que ce soit. Mais nous voulons que ce soit une immigration saine et responsable. Nous sommes conscients que les Africains, les Togolais, en ont marre de leur situation. Nos parents nous ont dit, allez à l'école. Après vos études, vous allez trouver du travail. L'État nous a promis l'emploi. Maintenant, nous avons fini nos études. Nos parents ont vendu leur terrain. Nos parents ont vendu tout ce qu'ils ont comme héritage pour nous envoyer à l'école. Ils nous ont envoyé faire des BTS, des études supérieures. Mais aujourd'hui, nous sommes revenus à la maison et nous sommes à la charge de ces mêmes parents. Ce n'est pas juste. Certains, en voyant tout ça là, ils décident finalement d'aller se chercher ailleurs. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement chez les Blancs ou bien en Occident que nous cherchons à aller, mais également dans les pays africains et les pays maghrébins. Et aujourd'hui, les Africains se retrouvent esclaves clandestins sur leur propre continent. C'est pourquoi, lors de la Convention panafricaine de la jeunesse, nous avons pris part à Nairobi, nous avons plaidé auprès des autorités compétentes et l'Union africaine pour la suppression du visa entre les pays africains. Parce qu'il est inadmissible que de l'autre côté nous voulons aller, on nous chasse. Et sur notre propre continent, nous n'avons même pas la possibilité de visiter les pays. Le cause de l'immigration, c'est le sous-développement. Ce sont les catastrophes naturelles et le changement climatique, mais aussi la mauvaise gouvernance. Quel est ce système de gouvernance que nous avons qui ne tient pas compte de l'humain? Comment vous pouvez comprendre que des gens qui ont leur licence, master, doctorat, continuent pas à faire des petits jobs? Certains n'en trouvent même pas. Alors que ces personnes ont fréquenté. Certains, ils ont appris des métiers, mais ils se retrouvent dans les zones franches en train de faire des petits travaux. Ce n'est pas juste. Quel est ce système de gouvernance que nous avons? Quel est ce système éducatif que nous avons qui ne favorise pas le développement de l'humain?
Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous devons changer même tout notre système éducatif? Parce que peut-être ça part de là, c'est ça?
Bien sûr, nous devons revoir, tout dépend de la gouvernance. Nous devons revoir notre système de gouvernance. Quel est ce système que nous avons? Vous prenez, un certain Fabrice Pondio. Vous déposez cette personne par magie aux États-Unis. Cette personne que je nomme Fabrice Pondio n'a jamais été à l'école. Ne sait ni lire ni écrire. Vous le prenez, vous le déposez aux États-Unis. 3 ans après, il revient, cette même personne revient au Togo ici. Vous allez voir sa vie transformée.
C'est-à-dire, il réussit sa vie.
Il va venir construire ici. Il va devenir un leader dans sa communauté. Et non seulement un leader, un espoir pour sa famille. Quel est ce système qu'ils en ont, qu'ils ont réussi à mettre en place? Et nous ne pouvons pas le faire. Vous avez vu que j'ai pris quelqu'un qui n'a pas de qualification. Donc le système prend compte de l'humain. Le système favorise le développement de l'humain. Donc, si nous voulons que nos jeunes ne prennent pas les voies clandestines, c'est-à-dire, ce n'est pas facile, hein? Ils vont passer par le Niger, vous passez par le Niger, peut-être vous allez travailler là-bas, et arrivé dans le désert, on peut vous prendre comme esclave. Et nous avons actuellement un dossier sous la main, un Malien qui a quitté sa famille depuis 2021 au Mali pour l'Europe. Il est passé par la Mauritanie où il a travaillé durement et à la fin de 12 mois, on ne l'a pas payé. On dit que quitter ici. Vous le revendiquez, on l'a bien torturé. Il est parti comme ça. Continue son trajet jusqu'à arriver en Algérie. Et le 8 avril passé, il a appelé sa maman, l'informant. Maman, maintenant je vais prendre le bateau pour l'Italie. Depuis ce jour, sa maman n'a plus de ses nouvelles. Inquiète, elle nous a contactés. Trouvez-moi mon fils. Même si il est décédé, je veux savoir. S'il est en prison, je veux savoir. S'il a réussi à traverser, je veux savoir. Nous avons saisi nos contacts. Nous avons commencé l'investigation pour que le jeune Camara soit trouvé, pas forcément en vie, mais s'il est décédé, nous voulons savoir. S'il est en prison, nous voulons savoir. Voilà un peu le périple. Et si vous prenez l'année 2023, par exemple, on a eu plus de 76 millions de déplacés.
En 76 millions de déplacés, c'est beaucoup, hein?
Et tenez-vous bien, on a enregistré plus de 8 000 décès en mer. Et souvent, ce sont les corps retrouvés qu'on compte. C'est ce qui fait que si on donne certains chiffres, il n'y a pas de chiffre exact.
Ce n'est qu'une estimation.
Voilà. Et si vous prenez ces chiffres, vous pouvez les multiplier par 2, par 3. Parce que certaines, des fois, les trafiquants les enterrent dans le désert, dans les fosses communes. Des fois, ils sont, ils sont servis comme de nourriture à certaines et animaux ou certains et poissons dans la mer. Des fois, vous êtes en bateau en allant parce qu'il y a deux mouvements. On peut décider qui sacrifie. On vous prend, on vous jette dans la mer. Si c'est toi, il y a une histoire comme ça où une maman a vu son fils jeté dans la mer. On sépare mère et enfant. Juste pour que les autres arrivent à destination, mais la plupart des temps, tous n'arrivent pas.
Alors, Brad, c'est vrai que la situation que vous décrivez, c'est une situation horrible avec des chiffres à l'appui. Ça fait froid dans le dos. Mais quand on prend la situation, même d'ailleurs, de ces gens-là qui arrivent à destination, finalement, c'est comment ça se présente?
Ah, si vous arrivez à traverser la mer, ce qui vous attend de l'autre côté, ce n'est pas du tout l'aide de qu'on vous a promis. Et autour de cette table, vous avez tous visité une fois ou plusieurs fois l'Europe. Ce n'est pas ce qu'on nous montre ici. Et ça aussi, ça concerne notre système éducatif. Moi, à l'école, on me disait que le Togo est un petit pays qui pratique une agriculture de subsistance. Et l'agriculture est considérée comme du corvée. Et c'est la réalité. Et au même moment, on me disait que Mangelan a fait...
Alors peut-être ce qui fait que des gens n'aiment pas s'aventurer dans le secteur de l'agriculture.
Bien sûr, on nous vante l'Europe. On nous dit que c'est de là. Alors qu'ici aussi en Afrique, nos grands-parents ont fait des exploits. Nos grands-parents ont réussi à faire des choses. Nos grands-parents n'ont pas été à l'école, mais ils ont réussi à construire des routes qui résistent jusqu'à ce jour. Mais on ne nous parle pas de ça. On nous parle seulement de l'Occident. Et avec des programmes, on nous a surchargé la tête. Et aujourd'hui, nous avons fréquenté, on peut seulement parler en français ou en anglais, mais en réalité, nous ne servons rien à notre pays. Et imaginez-vous que ce que nous recevons, ce que les étudiants perçoivent à l'université, les frais et qu'ils paient à l'université, pensez-vous que ce sont le coût réel de l'éducation? Non, l'État investit dans l'éducation. Et maintenant, ces gens finissent leurs études, ils se retrouvent à la maison. Ça n'arrange pas l'État.
C'est un manque à gagner. Alors, oui, Brett, c'est vrai que déjà avec la situation telle que vous l'avez présentée, on sent tout simplement que ça fait plutôt alors du mal aux Africains que nous sommes, bien évidemment, en parlant du système éducatif, hein, bien sûr. Alors, finalement, qu'est-ce que nous devons faire? Puisqu'il y a des gens aujourd'hui qui sont à la maison, peut-être, qui nous écoutent et qui ont envie également alors de se donner à l'immigration clandestine. Qu'est-ce que nous allons leur dit, et aussi pour même les décideurs.
Nous avons toujours dit, nous ne sommes pas contre l'immigration, mais nous voulons que ce soit une immigration saine et responsable. Vous voulez voyager, il n'y a pas de souci, informez-vous. Si vous avez besoin des informations, vous pouvez venir nous voir, vous pouvez nous contacter, nous allons vous dire. C'est pourquoi nous avons toujours dit sur les médias, nous avons des candidats. Si vous êtes cabinet d'immigration, vous maîtrisez bien votre domaine, vous êtes sûr que vous avez des opportunités de voyage, contactez-nous. Nous avons des offres à vous donner.
Puisque l'immigration se prépare, vous voulez dire.
Bien sûr, ça se prépare. Et vous ne pouvez pas. Comment ça se passe? Les agents de voyage sont impliqués. Ils sont dans le fraude. Ils sont dans l'arnaque. Ils vont vous dire, donnez ici, je vais vous aider, tant. Vous allez dépenser, et au fin, vous...
Et là, vous dépensez des millions.
Bien sûr, ils vont vous envoyer d'ambassade en ambassade, de consul en consul pour des interviews. Et maintenant, étant donné qu'on vous a rejeté partout, ils vont vous dire que non, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres voies, vous pouvez aller sans visa. C'est là qu'ils vont vous indiquer ces chemins clandestins qui ne vous mènera nulle part. Donc, nous disons, renseignez-vous. Si vous avez besoin de voyager, nous allons vous dire, s'il y a possibilité, nous allons vous dire, s'il n'y en a pas, mais Ce qui est important, commençons quelque chose. Commençons une activité générative. C'est pourquoi nous formons les jeunes en entrepreneuriat. Certains ont des niveaux. Si nous avons des possibilités, nous cherchons aussi l'emploi sur le plan international. Comme ça, si on trouve de l'emploi, ce serait maintenant à l'employeur de vous faire voyager dans de bonnes conditions.
Bright, là, quand vous parlez d'entrepreneuriat, ça me fait réfléchir un tout petit peu, parce que aujourd'hui, on peut même réussir également avec l'entrepreneuriat au Togo. C'est de ça qu'il s'agit aussi.
On peut réussir avec l'entrepreneuriat au Togo, mais là aussi, il faut que l'État aide les jeunes. Il faut que l'État aide les jeunes à développer leurs activités. Vous prenez un jeune qui a commencé son activité, il avance et avec le temps, il veut débloquer par exemple une somme de 2 millions, 3 millions, on lui demande papier de terrain. Un jeune qui a commencé sa vie, a commencé par travailler ses terrains, il va acheter premièrement, ses maisons, il va construire premièrement, même s'il arrive à construire une maison. Quelle sera la valeur de cette maison jusqu'à ce qu'il va prendre le papier de cette maison pour aller hypothéquer, pour prendre un crédit? Non. 3 millions, c'est rien. 5 millions, c'est rien. Et les microfinances doivent revoir leur manière de fonctionner parce que elles sont là.
Surtout les taux d'intérêt.
Ils accompagnent les gens. Moi, je ne parle pas même pas encore du taux d'intérêt. Ils accompagnent, un jeune a commencé à, en cotisant 1000 francs, 1000 francs. Il est arrivé à 2000, 3000, 4000. Maintenant, vous l'avez accompagné, ça veut dire que ça marche. Il demande une somme maintenant, vous dites que non, que vos règlements ne vous permettent pas de lui octroyer un crédit comme ça, sans garantie.
Parce qu'il y a aussi un système qui est mis en place là-bas.
Système qui est mis en place, il faut que ce système tienne compte de l'humain. Un jeune que vous avez commencé, ça marche. Maintenant, vous voulez qu'il retrouve les papiers du terrain avant que vous Si ça marche, il faut l'accompagner avec des conseils. Faut pas forcément exiger que la personne doit présenter des garanties. C'est ce qui retarde aussi. Alors que quand un business commence par fleurir, ça veut dire que ça devient source d'emploi. Il va commencer par embaucher une personne ou deux personnes. Donc, il faut que nous encourageons les jeunes. Ce n'est pas seulement... Vous savez, nous avons de bonnes idées en Afrique. Si vous prenez l'agenda 2063 de l'Union africaine, c'est rempli de bonnes idées. Mais est-ce que d'ici 2063 même là, d'ici 20, 100 même là, est-ce que on arrivera à réaliser? D'accord. Donc, au Togo aussi, nos dirigeants ont de bonnes intentions et ils l'ont toujours souvent démontré, mais la réalité est différente.
D'accord, la réalité est différente. Bright Fiaga, merci beaucoup alors d'être passé dans cette émission parce que il y a déjà le temps également qui nous talonne. Nous aurons d'autres occasions, mais je vous demanderai même d'ailleurs de rester avec nous, de participer, de suivre alors le débat avec nous. Et déjà à partir de midi, il y a les auditeurs qui pourront également nous appeler et aussi vous poser des questions. Il n'y a pas de souci. Merci.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle tout simplement que vous êtes le président du Conseil international pour l'immigration, l'entrepreneuriat et l'emploi si international. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Alors, chers confrères, nous démarrons alors notre débat de ce jour avec ce sujet évoqué à la une alors du journal des Guadiens. C'est par rapport surtout à la circulation routière et surtout la sécurité routière. Ambroise, vous écrivez à la une de votre journal, vous violez les feux tricolores, vous mettez la vie d'autres usagers et vous-même en danger. Hâte à la violation des feux tricolores, c'est bien ça?
Oui, je dois dire que c'est presque un encas, ce n'est pas un article. C'est juste pour attirer l'attention des usagers, des lecteurs, de faire extrêmement attention. Parce que c'est bien écrit que lorsque vous violez les feux tricolores, surtout le feu rouge, non seulement vous mettrez votre vie en danger, mais vous mettez la vie de l'autre aussi en danger. Je voudrais juste donner cet exemple-là. À Todman, ici, j'ai vécu un fait qui m'a horrifié. Le feu orange s'est présenté. Le motocycliste qui est devant s'est arrêté. Il y a un véhicule qui est venu le tamponner en même temps. Il est mort sur le coup. C'est à Todman ici. C'est deux fois que j'ai vécu cette scène-là. Je ne sais même pas si le jour-là, j'ai pu manger. Parce que lui, il était à vive allure. C'est pourquoi si je suis à moto, heureusement, ça fait plus d'un an que je ne prends plus la moto. Je fais tout pour ne pas être derrière devant quelqu'un à l'approche d'un feu. Parce qu'il y a des sous-là, il y a des chauffards. Lui, il veut brûler le feu orange, parce que le rouge veut s'allumer. Et il a tué gratuitement comme ça, surtout à Todman ici. Je crois que ces cas-là se produisent souvent ailleurs. Le cas des tricycles. Eux, bizarrement, comme ils se comportent comme des maîtres de la route, eux aussi se permettent de violer les feux. Il y a aussi des chauffards de certains véhicules, taximens, mais aussi des privés aussi qui violent. Donc, ce message est à l'endroit de tout le monde. Il y en a, je vous le dis, qui sont respectueux des règles de la circulation. Même déjà, quand ils voient l'orange, ils s'arrêtent de loin, ils s'arrêtent. Mais c'est le malheur, c'est ceux-là qui veulent vite, rapidement y aller. Des fois, il nous arrive, nous-mêmes, des fois, de le faire. Parce que tu es en retard, tu dois aller, Sauf qu'il y en a aussi, sentant le 5, le 4, le 3, approche, et même il part en même temps.
Oui, en plus, tu es en retard, mais vaut mieux y aller en retard que de ne jamais y aller.
Oui. C'est-à-dire, soit tu quittes tôt pour éviter les problèmes, ou soit tu respectes le feu tricolore. C'est les deux choses-là. Il ne faut pas inventer ce qui n'existe pas dans la règle, quoi. La règle, c'est que tu puisses préserver la vie des autres. Il y a un rapport mondial, des Nations Unies, qui a révélé qu'il y a plus de 200 000 morts cachés comme ça sur le continent. Hein. Et l'Afrique est le continent le plus endeuillé par rapport aux autres continents. Les autres se sont améliorés, mais nous, on continue. La route continue pas à tuer. La route tue, mais ce n'est pas forcément directement la route qui tue, mais c'est le comportement des hommes, des usagers qui tue. C'est vrai qu'il y a certaines routes qui sont détériorées. La route nationale numéro 1, j'ai vu un titre hier, je ne sais pas si c'est pas voilà, c'est le tonnerre. Aussi, on a écrit quelque chose comme ça. Mais on ne peut pas vivre dans un pays pendant 20 ans, 50 ans, et ne pas avoir une autoroute. De Lomé à Kara, de Lomé à Dapao, c'est inadmissible. J'ai même dit ici, ça fait plusieurs mois, qu'il faut envisager les chemins de fer, du transport de marchandises et d'humains et des hommes, de Lomé à Saint-Cassé, de Lomé à Néron, de Lomé peut-être à Palimé, de Lomé à Palimé, de Lomé à Thévier. Et donc, pour vous dire qu'en réalité, on a besoin de routes sûres, mais nos comportements doivent suivre la route qui est sûre.
Tiens, voilà, d'accord. Jean, c'est vrai que nos comportements portent préjudice même d'ailleurs à d'autres concitoyens, bien sûr. Ce qui fait même d'ailleurs que quand quelqu'un d'autre veut respecter alors le feu tricolore, finalement c'est lui qui s'en sort victime.
Oui, ce que Ambroise dit est vrai. Parce que vous savez, aujourd'hui, la route, on dit la route tue, mais ce n'est pas la route qui tue. C'est le comportement des uns, des inconscients, qui fait que nous avons des familles endeuillées. Et moi, je dis qu'au-delà de la sensibilisation, aujourd'hui, il faut passer à l'étape des sanctions. Véritablement, il faut qu'on sanctionne ces individus-là qui, par volonté cynique de faire du mal aux gens, décident de violer les feux et de détruire la vie des humains. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des radars qu'on a mis pour limiter la vitesse, mais également au niveau des feux, quand les gens violent, il faut que aujourd'hui qu'on commence par arrêter systématiquement ces gens-là. Parce que vous imaginez quelqu'un qui respecte le feu qui est là, qui attend son tour de passer, et un autre vient le ramasser. J'ai également été victime d'un accident comme ça. J'ai été témoin, j'allais dire. Une dame qui était au feu rouge Carrefour de Lyon, et le feu s'est arrêté. Le feu rouge s'est allumé. Elle s'est arrêtée. Quelqu'un file à vivre à lui, il l'a ramassé. Parce qu'il voulait violer l'orange, en fait. Et la dame est morte sur le coup. C'est-à-dire, on n'a même pas eu dit, bon, t'amène à l'eau. Elle est morte en même temps. Vous voyez des choses comme ça. Et cela me rappelle également un accident qui a eu lieu il y a 3 ans. Un chauffard qui roulait sans permis de conduire. La vis technique était expirée. La voiture ne lui appartenait pas. Il roulait. Il a traversé plusieurs checkpoints. Et il a violemment heurté un couple sur la route de Karakitao, il a heurté un couple qui, les deux, le monsieur et la dame, sont morts sur le champ. Et il y avait 4 orphelins de bas âge, de moins de 10 ans. Vous imaginez, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils deviendront? Et cette affaire a été traitée à la justice, mais je vous dis qu'aujourd'hui, la famille n'a pas encore eu gain de cause pour un événement qui s'est produit depuis 2020. Comment on peut comprendre ça? Quand il y a autant de laxisme dans certaines situations, qu'on ne montre pas des exemples de sanctions, comment d'autres peuvent comprendre que aujourd'hui, si je fais tel, il y a une sanction qui m'attend?
C'est un peu dommage. Et je crois que toutes les parties prenantes sont interpellées. Soyez prudents en circulation. Moi, je dis, au-delà de faire notre propre prudence, prions également. Parce que il y a des gens qui sont à droite, on est venu les ramasser, qui ont fait leur pas. Donc, prions également en attendant que nos autorités mettent ce qu'il faut pour que tout le monde soit en sécurité. Faisons nous-mêmes notre propre sécurité, notre prudence.
Oui, mais Jean, vous évoquez même d'ailleurs aussi, pour ce qui concerne la route, la construction même d'ailleurs de route, vous évoquez à la une alors de votre journal, Canal D, construction de la ligne ferroviaire Tema-Ouagadougou, une véritable concurrence à la route nationale numéro 1 du Togo.
Oui, Pascal, vous savez, cette route au-delà, ce chemin de fer au-delà d'être une concurrence pour la RNE, en vérité, c'est une concurrence pour notre port autonome de Lomé. Pourquoi je le dis? Vous savez, c'est depuis 2021 que l'idée a germé au niveau du Ghana de mettre en place une ligne ferroviaire qui va quitter Tema pour Ouagadougou, pour fluidifier le transport et permettre que les gens puissent arriver vite. Et le projet est en train de prendre corps et bientôt il va être achevé selon nos informations. Et c'est à ce moment que nous avons compris que, en fait, nous avons un problème. Parce que vous imaginez que si ce chemin de fer aujourd'hui est terminé, beaucoup de pays de l'Interland viennent à Lomé à cause de notre port. Et c'est la seule route nationale numéro 1 que nous avons qui permet le transport routier. Mais aujourd'hui, quel est l'état de cette route? On en a parlé plusieurs fois. Nous avons fait un article le mois dernier pour demander combien de morts avant le dédoublement de cette voie. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une situation. Je me demande si nos autorités ont conscience que cette route est la seule qui permet de desservir le port autonome de Lomé. Oh, le port autonome de Lomé, on nous dit que c'est le poumon de l'économie nationale. Imaginez que ce chemin de fer soit mis en place. Combien de pays de l'Interland nous allons encore accueillir au Togo? Combien de transporteurs vont passer par notre voie? Ça va faire chuter notre économie.
D'accord.
Je n'ai pas encore fini.
Oui, mais rapidement.
Je n'ai pas encore fini. Je vous dis qu'entre 2015 et 2007, la Banque mondiale a sorti un rapport disant que notre port autonome est en eau profonde. Il est certes vrai. Mais les autres ports des pays voisins sont en train de creuser même pour avoir des ports en eau profonde artificielle. Et si nous voulons être compétitifs, il faudra que nous améliorons nos voies de communication. Je vous dis, c'est depuis 2015 à 2007. Le rapport est là, on peut chercher. Il faut qu'on améliore nos voies de communication, voire faire des lignes de fer, des chemins ferroviaires. Mais aujourd'hui, nous sommes à près de 10 ans plus tard, rien n'a été fait. Quelle vision nous avons pour l'économie de notre pays? On doit se poser véritablement les questions. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence est rude. Et les pays comme le Ghana, le Bénin ne vont pas se laisser faire. Et c'est nous qui allons en pâtir. Nous interpellons une fois encore nos autorités de prendre la mesure de la chose et voir rapidement qu'est-ce qu'on peut faire. Cette route, on en parle depuis longtemps. Qu'est-ce qui empêche son développement? Qu'est-ce qui empêche que nous fassions un chemin de fer? Parce qu'aujourd'hui, il faut être dans l'investissement sur le long terme. Au-delà de ce que nous disons.
D'accord, oui.
Oui, moi, je voudrais ajouter à cette histoire d'accident de circulation que la Direction Générale des Transports ou le ministère des Transports a anticipé certaines choses par rapport au permis A pour les motos, parce que même le ratio mondial, le rapport mondial démontre que c'est les motos qui sont 40-44% victimes d'accidents et même la cause des accidents, 60% au Togo ici. Et donc, si tel est le cas, ils ont emmené le permis A, c'est pour pouvoir endiguer le phénomène. C'est déjà une très bonne chose. Ensuite, ils ont essayé de mettre le paquet sur la question des visites techniques au niveau des véhicules. Il y en a qui roulent sans phare la nuit, même l'électricité dont je parle, il n'y a pas de phare. Donc, ces contrôles-là ont été instaurés pour pouvoir réduire un temps soit peu le phénomène des accidents. Alors, il y a d'autres choses qu'il faut le faire, mais moi j'en appelle surtout à la mise en œuvre d'un décret. Je parlais d'un décret, un bon décret. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive, il a dit de sanctions. Il faut qu'on arrive à ce décret-là. Si ce décret est mis en œuvre, mon frère, les accidents seront réduits peut-être à 50%.
C'est évident.
Je ne sais pas si tu as une fois vu le décret. Il faut mettre en œuvre ce décret-là.
Mais qu'est-ce qui fait le problème aujourd'hui?
Oui,
l'application alors de ce décret pose problème.
Oui, c'est vrai, même quand tu vois le décret, toi-même tu vas avoir peur. Il y a tellement de dispositions que certains même vont quitter le Zemida. Ils vont laisser. Demidja est un ami. C'est-à-dire qu'ils vont laisser les Demidja. Même les Tshisekedi, ils vont laisser. Parce que, avant même d'être conducteur de moto ou de tricycle, les conditions, elles sont là, quoi. Tu comprends qu'il y a vraiment des conditions. Quand tu vois toutes les conditions là, c'est tellement administratif que tu es découragé d'avance. Et je me rappelle, nous, on en a fait un débat. Trois confrères, on en a fait un débat sur un autre média. On s'est dit même qu'il faut caser ces gens-là dans les routes adjacentes. Pas sur les routes nationales encore moins.
Mais combien de routes nous avons?
C'est ça aussi. Voilà, au moins sur les routes goudronnées là, il faut les éviter. Parce que tu sais ce que les dettes, ce qu'ils font. Eux, ils font sur toi, quoi. Parce qu'ils savent que le truc là, le transport de bagages, le comment vous dites ça?
Le
coffre qui transporte les bagages là, c'est enfer. Donc ils savent, ils sont conscients, ils font sur toi. Ils font sur tous les côtés, gauche et droite là, sur toi, tant pis pour toi. Si tu cognes, tu es fini. Et donc, les efforts sont faits. Mais il faut que le ministère des Transports, la Direction générale des Transports, mette le parc sur les permis, que ce soit A ou B. Les permis D aussi, eux. Il y en existe, non?
Oui, pour les poids lourds,
oui. Il faut contrôler. Et ceux-là qui viennent chercher ces permis-là, puisque les efforts sont déjà faits, mais que ce décret-là, qu'on mette en œuvre ce décret-là.
D'accord. Alors, l'article que tu évoquais entre-temps pour le journal Le Tonnerre, c'est bien cet article à l'orgue qui est intitulé « Le dédoublement de la nationale numéro 1, un grand défi à relever. Harris a-t-il dupé le Togo ?» s'interroge bien sûr le journal Le Tonnerre. Alors, nous allons quitter le sujet pour parler d'un autre sujet. Il s'agit alors du sport, puisque on le sait très bien. Depuis lundi, le Togo connaît en quelque sorte son sélectionneur et il s'agit alors de l'ES défenseur des éperviers et du Bombay Dare. Alors, il y a beaucoup de journaux, bien sûr, qui sont revenus sur le sujet aujourd'hui. Il y a des Guardian, Abras. Vous avez écrit alors football, du Bombay Dare, nouveau sélectionné des éperviers. Canal D, Jean, vous écrivez aussi football, du Bombay Dare pour bomber le TOS des éperviers du Togo. Et également le journal La Nouvelle Tribune de Elom Atisogbe qui titre à la une aujourd'hui football ni Bombay Dare prend les rênes des éperviers du Togo. Alors Jean, comment vous avez accueilli l'information pour ce qui concerne le fait que aujourd'hui le nouvel entraîneur le Togo a un nouvel entraîneur et il s'agit alors bien sûr alors de ni Bombay Dare?
Oui, vous savez ça fait plusieurs années que nous en appelons à ce qu'un entraîneur local soit à la tête de nos éperviers, parce que les entraîneurs locaux ont fait leur preuve dans beaucoup de pays déjà africains. Et on nous a tellement vendu d'être étrangers, mais plusieurs étrangers sont venus, mais le score, les résultats à la fin de leur parcours ont été vraiment très mitigés. Et beaucoup ont appelé véritablement ce qu'on est un entraîneur local, d'autant plus que nous avons des compétences. Si nous n'en avons pas, on comprendrait. On a des compétences et il faut un entraîneur local, on l'a dit. C'est chose faite, même si actuellement le contrat avec Ni Bombay Dare n'est pas encore signé. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais moi, je dis qu'avec cette nomination, c'est à peut-être à peine 10% du problème du football togolais qui est réglé. Parce qu'il faut comprendre qu'au-delà du problème d'entraîneur, nous avons beaucoup d'autres problèmes structurels et conjoncturels au niveau de notre football. Tant que ces problèmes ne seront pas réglés, Ni Bombay Dare ne viendra pas faire de la magie. C'est vrai, il vient avec un coaching, il vient avec une stratégie, mais même au niveau des joueurs, il nous faut beaucoup plus de joueurs de qualité. Il faut que les moyens soient mis à disposition. On a parlé de faire une certaine pépinière depuis les juniors jusqu'à arriver aux seniors. Mais regardez, dans le temps, on a eu les U17, et puis après, ces gens-là sont perdus dans la nature. Ouais, c'est des talents qu'on a gaspillés. Donc aujourd'hui, il faut véritablement une politique du sport, du football, pour qu'on ait un vivier. Et au-delà de ça, il faut que l'organisation, même au-delà de notre de l'entraîneur, tout ça, soit véritablement bonne. Parce que c'est l'argent qui fait aujourd'hui que le football a toujours tous les problèmes. Regardez au niveau des autres sports, est-ce que vous allez remarquer souvent ces petits pépins? Non. Mais c'est au niveau du football. Au niveau du football, on a trop de problèmes. Il faut faire la paix avec les anciens dirigeants. Vous savez, tant qu'on ne va pas, c'est vrai qu'on souvent snob ces sujets-là, mais tant qu'on ne va pas véritablement aller au fond et régler ces problèmes, les énergies négatives vont toujours accompagner les éperviers.
au-delà de la cosmétique qu'on va mettre, nous n'aurons pas le résultat qu'on veut. Un pas a été fait avec l'entraîneur local. Je voudrais vraiment qu'on lui donne les moyens de dérouler ce qu'il a en vision. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un entraîneur local, on se dit, bon, c'est un frère, un de nos frères, il y a certaines choses qu'on ne te donne pas. On se dit, non, on te connaît. Tu n'as pas véritablement la même mise pour faire tout ce que tu veux faire. Mais quand c'est des entraîneurs expatriés, on leur donne tous les moyens. Mais véritablement, parfois, ils ne font rien de concret, de bon. Aujourd'hui, qu'on donne les mêmes moyens, que la question financière, qu'on paie ce qu'on doit payer à cet entraîneur local, ce qu'on paie à l'entraîneur expatrié, qu'on lui paie la même chose. Mmh. C'est comme ça que nous allons véritablement valoriser nos compétences locales.
D'accord. Ambrage, est-ce que vous comptez sur la capacité alors de Nibombé Daré pour faire sortir le football togolais de l'ornière?
Quand on parle de capacité, ça on appelle à la compétence tout d'abord et à l'esprit d'éveil des collaborateurs et des joueurs. C'est les deux éléments qui peuvent entrer en jeu. D'abord, concernant la compétence, je ne crois pas qu'il y ait un Togolais actuellement plus coté en matière de compétence, de coaching, que Nibombé Daré. Je peux me tromper, il peut y en avoir. Mais pour l'heure, si le nom de Nibombé Daré est arrivé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, moi j'avais dit que c'est la dernière fois j'écrivais que c'est les réseaux sociaux qui ont désigné Nibombé Daré. Parce qu'ils étaient au moins 5 à déposer leur candidature. Mmh. Et Daré étant le meilleur titré en matière de compétences, de diplôme, même si ce n'est pas le diplôme qui fait le meilleur sélectionneur, parce qu'on en a dit, même si on peut beau amener Mourinho ici, il ne foutra rien si les contingences spirituelles ne sont pas levées, si les contingences, les problèmes de personnes ne sont pas élagués, et que l'on est sûr que qu'il n'y ait pas intrusion du côté du ministère des Sports et de la Fédération dans le choix des joueurs. Je me rappelle de Gérard Seyimemen, de Gérard Jumalon Nyonfam. Eux, on dit d'accord, on était dans la dictature. Et puis même, j'ai appris qu'il peut même, depuis la maison, recommander un joueur. Il n'est même pas au terrain. C'est-à-dire, voilà. Et ça peut se comprendre. Même au temps de Gabriel Ameyi et Avlessie et Rock. Donc aujourd'hui, ce qui est important à relever et à souhaiter, c'est qu'on mette Nibombé Daré dans les mêmes conditions que les Blancs. Si on perd 25 millions à ce Français-là, à ce Breton, vous l'appelez comment?
Claude Leroy.
Il n'est plus roi, hein, parce que il a foutu du bordel partout après avoir eu une coupe au Cameroun. Il a tout ça là. Bon. Et si on perd 25 millions à Nibombé, ne serait-ce que 15 millions par mois à Nibombé Daré, ils m'ont bien logé dans un bon hôtel comme on le fait à Claude Leroy et à son
Paolo Duarte.
Je crois que ce serait une très bonne chose. Secondo, que les anciens joueurs puissent aider Nibombé Daré à avancer. Il y en a qui sont sulfureux et très clivants. Et il y en a aussi qui sont très coopératifs par rapport à leur ancienneté et à leur expérience dans la sélection nationale par le passé. Et aussi, j'ai foi, je compte sur les dirigeants de la fédération, que ce soit le président ou le secrétaire général et tout ça, mettre le paquet pour que le contrat soit signé, parce que le contrat n'est pas encore signé. C'est ce que beaucoup ont critiqué, même si les rumeurs avancent toujours le nom d'un transfert de joueurs en Europe ou d'un sélectionneur qu'au Real Madrid devait prendre tant de temps, il y a toujours cette histoire de contrat-là. Ici nous sommes au Togo en Afrique, et quand les rumeurs annoncent la personne comme ça et que c'est officiellement évoqué, il faudrait que ça sous-entende qu'il y ait un contrat en aval. Donc s'il n'y a pas de contrat à tout moment dans ce pays, demain matin à 22h à 8h, on peut apprendre que c'est plutôt à Abalo Dessé qu'on avait annoncé, mais pas Nibombé Daré. Ou l'autre, il y a aussi un autre qui n'est pas aussi des moindres, qui aussi est candidat, qu'on a annoncé. Et donc moi, Et l'autre problème aussi, c'est le problème Bodé. Là, les gens élaguent ça, les gens écartent ça. Mais Bodé n'a pas encore eu ses 25 millions. Je ne sais pas si c'est lui-même même qui va lui remettre les 25 millions pour que cette histoire de mysticisme ou d'affaires occultes là puisse finir et enlever la malédiction sur le Togo, sur les éperviers. Mais que les gens se démystifient. Nibombé n'est pas un extraterrestre. si le problème du football togolais n'est pas limité seulement aux sélectionneurs ou aux entraîneurs, il faut qu'ils comprennent que Nimbombe ne viendra pas faire un miracle ici. Nimbombe fait faire ce qu'il peut. Il peut même qualifier le Togo pour une prochaine CAN. Mais encore faudra-t-il que toutes les conditions soient réunies, tant sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan rapport humain, sur le plan responsabilité, pour qu'on puisse avancer.
D'accord. Nous allons quitter le football. Il y a ce sujet que la Nouvelle Tribune évoque qui m'intéresse bien. Je lis à la une alors du journal La Nouvelle Tribune. Togo, précision de l'origine et de la destination des fonds banques, insultes et colère des clients. Et CBI Togo, première banque, a lancé une campagne d'information, crainte et inquiétude autour de la décision. Alors, quand on prend l'article tel que cela est libellé, on comprend tout simplement que aujourd'hui il y a des clients qui sont insultés, il y a des insultes quand même que les clients comment essuient.
Oui, bon, je n'ai pas.
Non, c'est pas les clients qui sont insultés. C'est les clients qui insultent même les agents de la banque.
Justement, c'est des clients, voilà.
Oui. Quand on lit le premier titre, je crois que, n'ayant pas eu la quintessence de l'article, je suppose qu'en fait, qu'il y a une nouvelle disposition qui demande aux clients d'expliquer l'origine des fonds, la destination. Je crois que c'est à peu près ça, mais peut-être que la communication n'est pas encore passée, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'insultes et tout ça. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui pour quelles raisons on leur demande d'où vient l'argent que vous attendez, où va l'argent. C'est-à-dire, vous savez qu'en Afrique, affaire d'argent, c'est un peu. Les gens n'aiment pas exposer leurs biens et
tout. Même ça. À leur famille, ils ne disent pas.
C'est écrit, on fait un mythe autour. Mais aujourd'hui, quand on nous demande d'expliquer d'où vient l'argent, où va l'argent, c'est pour faire quoi. Donc, les gens sont un peu frustrés.
Mais est-ce que ce ne sont pas aussi des principes au niveau de la banque?
Bon, je crois que c'est.
Non, c'est pas la banque, c'est le ministère des.
Je crois qu'aujourd'hui, c'est
la banque.
La banque,
oui, c'est. Ça vient de d'ailleurs. Hein.
Je crois que cette disposition a été prise dans l'optique de sécuriser quand même les finances. Aujourd'hui, on parle de terrorisme, de blanchiment d'argent.
Tout à fait.
Et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, je crois que nos États veulent véritablement contrôler parce que c'est également par ces moyens que le terrorisme est financé, que les groupes obscurs sont financés et qu'on fait beaucoup de blanchiment d'argent. C'est pour ça que l'État, je crois, veut essayer de réguler, de comprendre beaucoup de choses, mais aussi faut-il qu'on explique en profondeur la chose et que les gens comprennent. Parce que quand il n'y a pas de pédagogie derrière une décision, vous allez frustrer les gens et ce que vous espérez atteindre, vous n'allez pas l'atteindre.
D'accord.
Nous sommes sur la piste d'une banque qui est en train de faire quelque chose de mal avec certains clients. D'ici quelques semaines, nous serons tous informés.
Alors, Ambrose, est-ce que vous comprenez la colère des clients de ces banques, souvent, quand on leur demande alors de dire ce qui est la source alors de leur...
C'est pas seulement la colère des clients. Moi-même, ma colère ici.
Ah, vous êtes aussi en colère.
De ma colère.
Ah bon?
Vous pensez que moi mon argent-là, ce que je souffre avant d'avoir cet argent-là, moi, je vais déclarer à qui que moi, j'étais. Je préfère garder mon argent quelque part. Pas forcément à la maison. Ils vont faire fuir tous les clients des banques. Ça, je vous le dis. S'ils ont encore une heure de temps là, ils n'ont qu'à arrêter cette décision-là. Ça ne passe pas. Mais on est où là? Les blancs ont des systèmes pour contrôler les banques. Ils ont des systèmes pour contrôler les flux, les échanges d'argent au niveau mondial. Mais s'ils n'ont pas ces moyens-là, ils n'ont qu'à laisser les Togolais tranquilles. Personne ne va prendre l'argent pour aller acheter des armes, pour tirer sur qui que ce soit. S'il y a des voyous, des gens qui sont des terroristes, eux, ils ont des pédagogistes. Ils peuvent les détecter. Moi, je n'ai pas des armes. Mon argent n'achètera jamais des armes. D'abord, s'il achète, il faut que j'ai un permis de port d'armes chez Togo. Tu as un permis de port d'armes, Pascal? Jean, tu as un permis de port d'armes? Ils n'ont qu'à épargner les Togolais de ça. Je regrette que l'auteur de l'article n'était pas là. Moi, je vais revenir sur ça. Parce que, imaginez que je suis allé dans une banque ou dans une microfinance, dans une banque, et que je veux déposer 2 millions. Et qu'on me dise, monsieur, l'argent là, tu l'as eu où?
L'origine de l'argent.
Même à ma femme, je ne dis pas à la maison. Ma femme même ne dit pas. Tu as une fois entendu une femme monter son argent comme ça, devant un public, même à la maison? Jamais. Et cette femme va aller déclarer cet argent que, cet argent-là, je l'ai reçu d'un ami où j'ai fait la couture, où j'ai fait, comment vous l'appelez ça? J'ai vendu au port. Non. Vous voulez savoir l'origine de l'argent, vous faites quoi? Ceux qui blanchissent l'argent, vous les connaissez. Les Togolais sont pauvres à 90%. Seulement 5% sont des milliardaires, millionnaires. Vous voulez déranger les gens, vous faites quoi? Non, ils n'ont qu'à retirer cette décision-là. Parce que les gens vont préférer garder leur argent ailleurs. C'est tout. Il faut suspendre cette décision-là immédiatement. Parce que ça n'a pas de sens, quoi.
Jean, finalement.
Et ils vont te payer. Moi, j'ai lu quand le titre est sorti hier. Oui. J'étais sur une plateforme ou deux. Mais tous les confrères, personne n'est d'accord avec ça. Les gens me font 30 minutes. Ils peuvent traquer avec Pegasus là. Ceux qui font le blanchiment d'argent, les terroristes. Ils n'ont qu'à laisser les Togolais en paix.
D'accord. Oui,
Et je ne crois pas que c'est les banques. Hein. Moi, j'ai appris, ce n'est pas les banques.
Ah bon?
Non, ce n'est pas les banques. Ce sont au niveau de nos autorités.
Ils sont derrière cela.
Ils sortent, je ne sais pas. Entre parenthèses, soit c'est les autorités elles-mêmes, soit un ministère, je ne sais pas, je ne veux pas donner de nom, ou une institution de l'État qui voudra, même pas la BCAO, je ne crois pas, qu'on contrôle l'argent que moi j'ai amené, ou je vais prendre tel argent. Non, ils n'ont qu'à laisser ça.
Oui, Jean, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas des mécanismes technologiques aussi appropriés pour
vérifier les gens vont vider les banques.
L'origine même d'ailleurs de cet argent apporté à la banque?
Non, Ambroise l'a tantôt dit. En Occident, c'est possible aujourd'hui de faire un traçage quand vous avez des fonds et tout. On peut savoir à peu près. Parce qu'il faut dire que tout est électronique au niveau de. Tout est digitalisé au niveau de l'Occident. Mais actuellement, en Afrique, nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Mais je sais quand même qu'il y a une structure qui s'appelle la Centif, une cellule qui permet de superviser ça au plan national. Et quand vous recevez un transfert de fonds qui atteint certains montants, ils essayent de vérifier, on vous appelle, on vous demande, voyez d'où vient cet argent. Parce que quand c'est un montant important, on le fait. Mais pour quelqu'un qui va pour déposer 50 000, 100 000, 200 000, et qu'on pose cette question, vous imaginez un peu comment la personne va se sentir. Je crois que, je ne sais pas, comme Ambroise l'a dit, d'où vient cette décision.
Quelqu'un me parle de la BCAO. Je viens de lire un monsieur qui m'a dit que c'est de la BCAO. Et même si c'est la BCAO, il y a forcément une autorité derrière.
Pourquoi vous pensez forcément qu'il doit y avoir.
Oui, c'est dans un pays où on pense que les gens peuvent aller acheter les armes pour faire. Je ne sais même pas. C'est-à-dire qu'on soupçonne tout le monde. Moi, il y a des choses que moi, je ne peux pas vous dire ici. Ce téléphone-là, trois messieurs m'ont appelé ce matin. Ils se sont même énervés. Ça sent chez eux, ça ne sont pas chez moi. Comment tu peux comprendre ça? Mon téléphone est pisté depuis 3 ans.
D'accord, nous allons quitter le sujet. On reviendra forcément sur le sujet avec l'auteur même d'ailleurs de l'article, Elon Matisogbe, le directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. Alors, Ambrose, nous allons attaquer la politique. Vous écrivez à la une de votre journal, vous vous intéressez à la 4e et 5e République à la fois, et vous écrivez « Le Togo cheval entre 4e et 5e République sans gouvernement, un pays en stagnation avancée ».
Oui, un pays, d'abord quand on parle de quelque chose qui stagne, c'est un truc qui n'avance pas. Pire, ça n'avance pas, mais ça peut reculer, ça fait du surplace, mais reculer. Et vite en dégradation. C'est l'état dans laquelle, la situation dans laquelle le Togo se trouve actuellement. D'abord, vous allez comprendre que nous sommes allés d'une 4e République à une 5e, mais on continue. Moi, je continue toujours pas à appeler Fonia Simbé président de la République. Ou bien,
c'est le président de la République, puisque
on ne l'appelle pas président du Conseil des ministres.
Oui, président de la République.
Donc ça veut dire que nous sommes toujours dans la 4e République, dans la Constitution de 92. Ça, c'est un. De deux, le ministre Awaté et le ministre Bahada ont dit que nous sommes en plein 5e République. Mais où sont les institutions de la 5e République? Où sont les institutions qui incarne la 5e République?
Et c'est pas à pas que cela sera mis en place.
Mais si c'est pas à pas, dites-nous que nous sommes toujours dans la 4e République en attendant d'installer les institutions de la 5e République qui sont le Sénat, le président du Conseil des ministres qui a tous les pouvoirs de l'État, le président de la République qui est nommé sans débat, avec qui fait 3 ans et qui est désigné non pas par suffrage universel direct comme par le passé, mais qui est désigné par le même congrès. Il n'y a pas les autres membres de la HAC qui doivent être désignés par le président de la République pour rejoindre ceux qui ont été élus par la 4e, les députés de la dernière législature. Il y a quelques membres de la Cour constitutionnelle, je crois, qu'il faut aussi désigner par le CIR, qui doivent être désignés par le Sénat. Le chef de l'État en a déjà nommé Boukessi et quelqu'un pour aller là-bas.
Monsieur Meissou.
Fait déjà 5 choses qui ne sont pas encore faites. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas. Il y a tellement de choses. Alors, on nous dit que nous serons en période transitoire. Est-ce que nous sommes déjà dans la période transitoire? Si, effectivement, j'ai bien titré, hein, on doit être dans une période transitoire. Ce qui doit acter la période transitoire, c'est un gouvernement. Parce que le gouvernement démissionne, ça fait deux mois le gouvernement démissionné.
Oui.
Et donc, avec une démission d'un gouvernement, sans l'institution de la République, de la 5e République, comment on peut qualifier cet État? Le Togo est aux arrêts. On est aux arrêts. Vous comprendrez que s'il y a des choses qu'on doit reprocher à quelqu'un, la seule personne à qui il faut reprocher, c'est au président de la République. Puisque je l'appelle toujours président de la République. Et ce qui est dangereux dans tout ça, on ne cessera jamais de le dire, c'est qu'on nous dit que nous sommes dans une 5e République avec une nouvelle constitution. Et que cette constitution a tellement dératé, a tellement des dispositions, je ne dirais pas contradictoires, mais qui font entorse à la véritable démocratie qui sont ailleurs, même qu'on en a vécu dans la 4e République. Même si on n'a pas eu le temps d'expérimenter la constitution de 92. On ne peut pas élire un président du Conseil de la République, un président du Conseil des ministres, sans débat. Ça, j'insiste sur ça. Ce n'est pas la démocratie. Et le président de la République ne peut pas nommer un tiers du Sénat. Ça ne se fait jamais ailleurs, si nous sommes dans un régime parlementaire.
D'accord.
Et donc, actuellement là, tel que tu le vois là, le Togo stagne.
D'accord. Alors, Jean, vous avez aussi l'impression qu'il y a une stagnation au niveau du pays?
Oui, il y a une certaine stagnation, il faut le dire, parce que c'est vrai, nous sommes rentrés dans une 5e République avec une nouvelle constitution à pas de charge. Ça, personne ne le démentira. Et on nous a parlé d'une période transitoire au cours de laquelle les institutions seront mises en place. Donc, ce qui veut dire que les institutions de la 5e République ne sont pas encore en place, mais nous utilisons les institutions de la 4e République pour fonctionner avec, jusqu'à ce que tout soit mis en place d'ici maximum un an, comme on nous l'a dit.
Mais est-ce que ce n'est pas dans l'ordre normal des choses?
Bon, moi, quand nous observons, dans aucun pays actuellement, on a cette situation de transition d'un an ou dans un pays démocratique, il faut le dire, outre dans les pays où nous avons des changements de pouvoir par les armes, où il y a une transition aussi longue. Mais dans les pays dits démocratiques, c'est une situation, un fait rarissime, il faut le signifier. Maintenant, quand on est rentré dans cette 5e République, on nous a dit que le gouvernement a démissionné. Mais la question que nous nous posons, pourquoi est-ce que depuis là, on n'a pas un nouveau gouvernement? C'est la question qui taraude la question de tous les Togolais. Pourquoi qui taraude l'esprit de tous les Togolais? Or, vous savez que quand on dit qu'un ministre est en train de gérer les affaires courantes, ce ministre n'a plus la main mise pour faire tout ce qu'il faut faire. Il ne fait que le minimum de certaines choses. Donc, ce qui veut dire que depuis deux mois, les ministres togolais, ils sont là juste à recevoir les gens, à faire des petites visites et tout ça. Mais dans le fond des choses, il ne peut pas prendre d'action tangible. Et nous n'avons que la secrétaire générale de la présidence qui a au four un moulin, qui reçoit à peu près tous les invités, les officiels et tout ça.
Elle est devenue première ministre.
Mais aujourd'hui, les Togolais veulent que le pays puisse bouger. Et ça fait deux mois, on ne peut pas quand même comprendre qu'est-ce qui fait obstacle à ce que nous ayons des ministres, que nous ayons un nouveau ministre, un premier ministre et un gouvernement qui puisse avancer. Parce que d'autant plus que nous avons des urgences. Quel est le problème? Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, moi je ne pourrais pas vous le dire,
d'accord.
Mais c'est un constat que nous faisons tous.
Oui, juste pour ça, c'est un constat que nous faisons. Oui, en fait,
c'est dans ça qu'on oblige les gens
thésauriser
leur fonds à la maison, à travers cette décision bizarre-là. Maintenant, quand on parle, nous sommes toujours dans la 4e République.
Oui, mais moi je voudrais quand
même... Juridiquement, nous sommes dans la 4e
République. Embrasse.
Parce qu'on n'a pas un gouvernement. Ça c'est un de deux. La transition dont on parle doit faire un an. Puisque le président de la République, je l'ai dit, est toujours président de la République. On doit donner un an. Et ce un an-là nous signifie que nous ne sommes pas encore dans la 5e République. Nous sommes toujours dans la 4e République. Parce que c'est là, il n'y a même pas de gouvernement. Il faut qu'il y ait un gouvernement qui fasse la transition jusqu'à la 5e République. Mais ceux qui nous disent que nous sommes dans la 5e République, nous sommes ici, on a été à l'école.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on trouve des difficultés à instaurer, enfin, à avoir un nouveau gouvernement?
Ils ont des difficultés même à comprendre le texte qu'ils ont devant eux.
Alors, il y a des gens quand même qui sont contre même d'ailleurs cette nouvelle...
Au sein du même du Parti Uni, les gens sont contre ce texte-là.
Non, je ne parle pas de cela, mais moi je parle...
Moi je te dis qu'au sein du Parti Uni, sont contre la constitution-là, parce que ça ne les arrange pas eux-mêmes.
D'accord. Je parle plutôt alors de l'opposition et aussi des organisations de la société civile et même des opposants qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire dans la diaspora. Vous écrivez sur ce sujet, sur le sujet, trois opposants de la diaspora décident alors de mettre fin au régime de Faure Gnassingbé. Et aussi, il y a également le journal Le Changement, hein, qui écrit « Parlement de la CEDEAO, le député sénégalais Guy Sagnan dénonce alors la nouvelle constitution togolaise ». Donc, il y a aujourd'hui des contestations partout.
Oui, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la mobilisation est en train de prendre jusqu'au niveau de la diaspora, puis jusqu'à d'autres sphères africaines, comme le député Sagnan que j'ai suivi avec brio dans cette vidéo face à Maimounatou Ibrahima, qui est le président
du Parlement de la CEDEAO.
Je crois que j'aimerais qu'elle fasse cette expérience là, et malheureusement qu'on n'a pas un parlement comme celui européen où c'est le peuple qui désigne les députés directement pour qu'ils aillent siéger dans ce parlement régional. Et ça aurait été un parlement qui devait être élu directement, et là je serais content parce que c'est la CEDEAO qui enverrait les scrutateurs et les observateurs ici pour que ces élections ne soient pas encore fraudées. Maintenant, quand on nous parle quand Guy-Marie Sagnan, ce que Guy-Marie Sagnan parle, ce qu'il dit, c'est-à-dire, moi j'ai tout compris que nos autorités doivent comprendre que tout ce qui se passe au Togo, les gens sont au courant à l'extérieur, quoi. Les gens sont plus au parfum de ce qui se passe chez nous que nous-mêmes qui sommes à l'intérieur. Et donc, ils n'ont qu'à faire en sorte pour que le Togo change. Parce que le Togo n'est pas dans une bulle. Le Togo n'est pas un pays situé sur Mars où Barack Obama et Joe Biden chercheraient à aller le visiter là-bas. Nous sommes entourés par des gens qui avancent. Quand vous prenez la partie nord, c'est le Burkina. Ils sont actuellement dans l'AES. C'est un régime militaire, d'accord ? Mais c'est un régime qui avance. Les gens ont construit un chemin de fer au Mali. J'ai lu 1000 logements. Ibrahim Traoré, qui est en train de construire 1000 logements. Ils sont en train d'installer, pour l'énergie nucléaire, pour l'électricité, même si ce n'est pas toutes les fois que nous autres écologistes, on aime ça. Maintenant, quand on prend le cas de nos opposants, pour revenir à l'autre sujet, Kofi Annan et Jean Sylvanus Olympio et
François
Bocco, c'est des gens qui ont hâte à revenir dans leur pays. François Bocco, comme Agbomé, a toujours souhaité revenir ici. Mais les Togolais qui sont à l'étranger ne peuvent pas être empêchés de revenir par peur d'être arrêtés, d'être interpellés, juste à la distance d'avion. Et donc, ils n'ont qu'un dernier rempart, c'est la lutte. Lutter, sensibiliser l'opinion internationale qui nous a carrément oubliés. Surtout ceux-là qui sont ici, là, les cinq ambassadeurs-là. Ils nous ont oubliés. D'accord. Ils savent ce que nous vivons ici, mais ils font semblant de ne rien savoir. C'est comme l'impression qu'on les a botémisés ou on les a surjoyés. D'accord. Et ils sont là. On les appelle aussi, ils viennent dans une salle. Et c'est Bahora qui devient le maître des chantres.
Merci beaucoup, Ambroise. Vous
voyez ça?
Oui, et Jean, est-ce que vous comprenez la contestation alors de ces opposants qui sont à l'extérieur du pays et aussi même d'ailleurs du député sénégalais Sagnan?
Oui, vous savez, c'est dans l'ordre normal des choses. Vous savez, cette constitution nous a été appliquée, mais il faut quand même dire, même qu'au plan national, plusieurs n'étaient pas d'accord. Plusieurs ont manifesté clairement leur opposition à ce projet de constitution, jugeant...
Surtout la procédure.
La procédure, fondamentalement, c'est la procédure qui n'a pas plu à beaucoup. Et si à l'intérieur, les gens ne sont pas d'accord, c'est normal qu'à l'extérieur, les gens ne soient pas d'accord. Surtout les Togolais de la diaspora. Vous savez que depuis quelques années, il y a de ces Togolais-là qui sont fondamentalement contre le régime en place au Togo et qui n'apprécient pas véritablement tout ce qui est fait. Et c'est dans la dynamique des choses que aussi ce front puisse se mettre en place, parce que c'est de bonne guerre, moi je dis. On ne peut pas avoir l'unanimité totale dans une chose. Et même dans la sous-région, c'est vrai que la CEDEAO, récemment au sommet d'Abuja, a dit qu'elle a pris acte de la nouvelle constitution. Mais il faut dire que dans les pays de la sous-région, beaucoup s'interrogent sur la manière dont cette constitution a été mise en place au Togo. Et c'est à peu près ces aspirations que le député Sagnan a exprimé publiquement, ce qui a fait le tour de la toile. Et je me dis qu'aujourd'hui, nos autorités togolaises doivent vraiment prendre la mesure de la chose pour comment aplanir le terrain. Parce que moi, je dis, une constitution a pour vocation à unir les Togolais. Mais
puisque c'est avec un contrat social.
Un contrat social. Mais avec amertume, nous constatons qu'aujourd'hui, les Togolais dans l'ensemble ne sont pas unis sur ce contrat social qu'on nous a présenté.
D'accord, ok. Et merci beaucoup, chers confrères, pour le débat. Et nous allons maintenant permettre aussi aux auditeurs de participer à ce débat avec nous, puisqu'ils s'impatientent à entrer en ligne, à participer à ce débat. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission. C'est maintenant le moment de participer à cette émission à travers le 91 36 63 75 et le 90 86 35 35 90 30, 86 35 35. Je rappelle que nous sommes toujours aussi avec Brett Fiaga, président du Conseil international alors pour l'immigration, l'entrepreneuriat et l'emploi, qui est venu alors nous parler de l'immigration. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gado, comment vous allez?
Ah, ça va très bien, vous reconnaissez la voix?
Justement, je reconnais la voix.
Ça fait un moment. Bon, pour ce qui concerne les immigrés, là, c'est nos dirigeants. Ils préfèrent gouverner les squelettes, les affamés. C'est pourquoi les jeunes partent. Ouais, ils sont riches, mais ne veulent pas partager. C'est pas sérieux. Bon, secondo, nos routes, on n'a pas de route. On dit route nationale numéro 1. Quel numéro? Moi, j'allais à Gris, le toit là. Il a une bâtisse qui est en panne, on a fait des heures. J'étais énervé quand j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le mari du ministre des Transports. J'ai raté. C'est pas normal. J'ai dit à son mari de dire à la dame. C'est pas numéro un, ça. Allez au Ghana, vous prenez à Flaou, à Accra. Vous allez voir des routes. C'est pas sérieux. Pour nos banques, on n'a pas de banque. C'est des caisses de dépôt. Moi, je suis même parti prendre de l'argent. On m'a volé 15 000 francs. Vous voyez comme ça. C'est la crise, hein. J'ai posé une question à une dame du gouvernement, elle ne sait même pas que le maïs a mis. Bonne journée.
Bonne journée, monsieur Gado, merci hein, surtout pour votre intervention.
Oui, allô.
Oui, allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour. Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour, je vous écoute. Allô.
Allô.
Décidément, il n'a pas de retour.
Il faut diminuer un peu.
Allô, bonjour.
Allô, monsieur le sœur.
Ah, bonjour, papa Sibiti.
Bonjour, monsieur. Le fils de mon patron, Amourazou Kondjo.
Oui, bonjour, monsieur. Papa Sibiti.
Vous avez raison. Voyez les banques là. Nous allons pour toucher. On nous donne des papiers. Il faut tout faire pour qu'ils suppriment ça. Bon. Deuxièmement, le foot là. Vous savez, c'est la jalousie. Prenez le cas de Kader qu'on a nommé. Et vous avez vu ce qui a circulé contre le monsieur. Je ne sais pas pour les Togolais. Quand on prend un des leurs, ils ne sont pas contents. Pourquoi? Il faut qu'ils revoient ça. Maintenant, le président, avec la constitution, qu'on veuille ou non, qu'est-ce que nous allons faire? La cinquième, ils l'ont mise. Mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'on dise que le monsieur Paul Nyatumbe est président de la République. Ça sonne mieux et c'est plus spirituel. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse à l'heure de ce jeudi. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour.
Votre nom, c'est Monsieur Kofi.
Oui, c'est Kofi.
Voilà, allez-y.
Oui, d'abord, j'espère que le Kofi pas le suite.
Oui, mais monsieur Kofi.
Oui.
Excusez-moi, vous allez éloigner votre bouche un tout petit peu du téléphone.
Oui, oui, oui. D'abord, j'espère que le nouveau futur directionnaire des éperviers, j'espère qu'il a bien lu avant d'accepter de prendre l'équipe en charge. Parce que moi, personnellement, je ne veux pas qu'après un fiasco, qu'il se mette à dire oui, voilà, il me manque, il contient tel. Si c'est le cas, moi, je veux l'objectif de Pierre. Bon. Le problème du football togolais, ce n'est pas un problème d'entraîneur, parce que nous n'avons pas de joueurs créatifs. Nos joueurs ne sont pas créatifs. Et cette histoire de qu'un certain dieu voulait de l'argent ou on devait lutter, ça, c'est pas un truc à dire sur les antennes, hein. Parce que à l'international, si les gens nous entendent, c'est pas bien. C'est pas bien. Bon. Et je reviens aux banques. C'est vrai, c'est frustrant, hein. C'est frustrant. Quand tu as 20 000 francs ou 30 000 francs, on te pose toutes ces questions-là. Moi, je sais qu'en France, c'est au-delà. Et lorsque je veux déposer, je veux prendre 8 000 euros, hein, c'est-à-dire 5 millions de poussières, on doit me soumettre à cette interrogation. Mais ici, bon, sincèrement, ça ne va pas. Merci.
D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est M. Niamavo.
Oui, Niamavo.
Allez-y.
Ça m'intéresse concernant la constitution. Là. Il s'appelle Guy, quoi, et le Sénégalais.
Oui, Guy, ça, Sagnan.
Il n'a fait que renchérir ce que son patron était venu au sommet de la CEDEAO dire. Parce que lui, il disait qu'il ne souhaite pas que les pays de Sahel et Sahel quittent la CEDEAO. Mais il ne souhaite pas aussi que les parlementaires changent la constitution pour permettre aux gens de s'éterniser au pouvoir. Il avait dit. Mais c'est lui qu'on a choisi maintenant de travailler avec notre président pour faire venir les gens de la... De l'AES. Maintenant, c'est une patate chaude. Comment faire cette pédagogie, dire à notre président qu'ils s'éteignent trop au pouvoir, que ce qu'ils ont fait, ça va bien, avant de convaincre les autres? Ça, c'est un devoir très difficile. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi son député encore a réitéré ça face à Maïmouna Touko. C'est pas bien ce qui se fait au Togo. Et on dit que G5, c'est comme ils sont botémisés. Nous sommes plus botémisés que la G5. Au Togo, on dirait qu'on nous a interdit de réfléchir. Quand on propose de bonnes idées, on ne prend pas ça en compte. Même les ministres ont piloté ça. Ils ont l'habitude de dire quelle phrase là. Sur l'instruction ferme du chef de l'État. C'est comme celui seul qui a un logiciel dans la tête qui réfléchit à la place de tous les Togolais, quoi. Bonne journée.
Bonne journée, monsieur Niamavo, et merci pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Canal FM.
Comment vous allez?
Oui, je vais bien.
D'accord. Votre nom, c'est?
C'est Monsieur Serge depuis Adakpamé.
Monsieur Serge depuis Adakpamé. Serge, allez-y.
Oui. Bon, moi, j'aimerais m'adresser directement à Gilbert Bawara. Comme le ministère est devenu sa propriété privée, qui fait pratiquement plus de 17 ans là-bas. Donc, il ne voulait pas perdre ça. Quand vous voyez la gesticulation de Gilbert Bawara, il faut le comprendre comme ça, quoi. Et nous, notre péché au Togo, nous n'avons pas des gouvernants. Nous avions un réseau mafieux qui est à la tête d'un pays qui continue à plier ce pays-là. Je m'explique. Je voulais demander à Fonia Sibé, vous gouvernez un pays, vous avez la population, vous voulez faire quelque chose pour cette population-là. Et cette population-là dit que non, nous ne voulons pas ça, que ce n'est pas ça, nous, notre priorité. Pourquoi ils ne veulent pas nous comprendre? Pourquoi? De toutes les façons, on dit dans nos jargons que et nous que la souveraine à soi, et le sont tombés pour
vous. Monsieur Sej, bonne journée, monsieur Sej. 91, 86, allô? 63, allô? 75. Allô?
Allô?
Bonjour.
Ah, bonjour, Patrick.
Comment vous allez?
Ah, ça va bien.
Votre nom, c'est?
Abalo, depuis Adetikopé.
Abalo, depuis Adetikopé. Monsieur Abalo, allez-y.
Ouais, je salue le plateau. Je salue monsieur Ambroise, bonjour. Ces interventions, ça me plaît beaucoup. Ça me va droit au cœur. Je voulais parler à nos gouvernants. Regardez, les gens sont au poste depuis des années, ils ne quittent pas. Et on dit. Allô?
Oui, monsieur Balot, je vous écoute.
Et l'homme de l'immigration, là, regardez comment. Pourquoi les gens ne vont pas immigrer? Les gens sont au poste depuis des années, ils ne quittent pas. Et on dit, il ne faut pas que les enfants, moi-même je suis ici, je sais que pour immigrer. Oui, non. Donc, c'est ça.
D'accord, monsieur Ballou. Oui, mais merci beaucoup pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour. 91 36 63 75 90 86 35 35. Et sur ces deux numéros que vous pouvez réagir, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Et si vous nous appelez, intéressez-vous au sujet débattu ici au Club de la Presse. Allô?
Oui.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Pascal.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
C'est monsieur Mawena.
Benoît Dagoué.
Ah, c'est plutôt Benoît. Ouais. Autant pour moi. Benoît, allez-y.
Bon, vous savez, l'immigration, là, il y a. Je commence par la route. Quand les feux, il y a un mystère. Les feux tricolores se gâtent. Il y a des semaines. Je sais pas, moi, c'est pas après de 4e République, 5e République, président fort. Ils m'ont quand même donné des comptes. Quand on gueule le feu, les gens comprennent là-bas, on fait quoi avec? Quand le feu, il y a un ministère de cet patron, dans ce ministère-là, il n'y a pas des gens, des techniciens. Moi, je vous dis, par exemple, l'immigration dont vous parlez là, quand nous avons un vrai chemin de paix, il y a un vrai. De TGP là. Il y aura de l'emploi, il y a des terres. C'est un programme. C'est sur un programme qu'on vote un nom président. C'est pas fait de. Bon, je vois les ceux qui disent qu'ils sont dans la 5e République là. Je vois quelle est la différence entre la 5e République en sortant, en regardant la situation, la vie que nous menons. Quelle est la différence entre la 4e République et la 5e République? Le fait que d'avoir à l'Assemblée 113, je ne sais pas, 108 contre 5 là. Il faut que les gens sachent que nous, les Togolais, là, le Togo appartient à tout le monde. Ils nous ont donné un compte de. Bon, et je suis tellement énervé que je le
fais. D'accord, ça se comprend, merci, M. Benoît. Merci beaucoup. Et vous êtes alors le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission, alors de ce jeudi. Chers confrères, nous revenons alors en studio pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission de ce jeudi. Bien sûr, Jean, vous avez écouté les uns et les autres aussi se prononcer sur l'actualité. Et c'est quoi votre réaction?
Oui, moi je vais revenir juste sur la question des feux rouges. Effectivement, nous avons beaucoup d'endroits à Lomé, beaucoup de carrefours, où les feux rouges ne marchent pas. Parfois même au niveau du pont d'Agoué, que les gens appellent abusivement échangeur, les feux rouges ne marchent pas.
Même au centre-ville,
à plusieurs endroits, à Décon. Mais on en parle, mais on veut préserver les Togolais des accidents. Mais qui sont ceux qui gèrent les feux? Quelle société gère les feux? Moi, je n'en sais rien, mais véritablement, le minimum qu'on a, qu'on puisse le sauvegarder. Et il y a un auditeur qui m'a envoyé un message pour notre invité. Il dit que c'est vrai que l'invité a parlé d'entrepreneuriat, mais il dit qu'au Togo, l'entrepreneuriat, au fait, c'est pour dire que tu fais un travail. Même si ça ne permet pas de vivre, au moins tu dis que tu es entrepreneur. C'est juste pour dire que l'entrepreneuriat qui nous a été vendu tel que ficelé ne permet pas aujourd'hui à beaucoup de Togolais de s'en sortir. Parce que ils disent qu'ils ne voient pas de leader en entrepreneuriat au Togo. Qu'on peut dire qu'il y a des capitaines d'industrie qui sont sortis aujourd'hui, qui font la fierté, comment ils sont battus, quel est leur parcours et comment eux aussi peuvent s'en inspirer. C'est ce que beaucoup de jeunes disent. Je ne sais pas si notre invité a une réponse à cet auditeur-là.
D'accord. Je reste avec vous pour votre note de fin d'émission.
Non, je n'ai pas de note.
D'accord. Ambroise, votre réaction dans une minute.
Je voudrais aussi abonder dans le sens des histoires de feu rouge. Moi, j'aurais aimé, comme c'est de la prérogative des communes, des maires ou des conseils municipaux, tout ça là, il faut que les autorités municipales se dessaisissent. Qu'ils retransfèrent cette compétence-là au grand district autonome de Lomé, qui peut faire une couverture globale de la ville de Lomé, de la préfecture de Golfe jusqu'à Guanivé. Parce que c'est une question qui doit être en principe transversale, parce que ça dépasse certaines communes. Si chaque fois c'est certaines communes, telle commune prend une telle initiative et que l'autre ne prend pas, le problème va demeurer. Donc, en principe, ce district autonome de Lomé ne devait pas exister. Mais comme ils l'ont créé pour exister, il faut que les transferts, les compétences là soient transférées au district autonome de Lomé pour s'occuper des feux rouges. ne serait-ce qu'en dehors, en dehors d'autres responsabilités qu'ils ont, que ce district-là, le Dagle, s'occupe des feux rouges. Et quand ça s'arrête quelque part, ou ça dysfonctionne quelque part, c'est eux quoi. Qu'on laisse les au moins, les communes même transpirent déjà. Donc, il ne faut pas encore les affubler de cette histoire de feux rouges.
D'accord. Je reste avec vous pour votre note de fin d'émission.
Oh, moi, si j'ai une note, c'est à ces gens-là qui...
Oui, la note, c'est quoi?
La note, c'est 2 sur 20.
2 sur 20. Non, c'est sur 10. Donc, ça fait 1 sur 10.
Ça fait 1 sur 10.
D'accord.
À ceux qui nous bombardent avec la musique, les décibels sonores là, la haute musique là, il faut arrêter ça.
Ce qui provoque la nuisance sonore.
Et j'en appelle. Normalement, la note devait aller à la commune même. Mais je réserve pour la prochaine fois si ce n'est pas fait.
D'accord.
La note va leur revenir.
Ok, d'accord. Oui, Brett.
Merci. Et la question qui m'a été posée et l'intervention des uns et des autres montrent que vraiment nous avons du travail à faire. Quand il n'y a pas de développement, quand le système de gouvernance n'est pas assez sur l'humain, ça pose toujours des problèmes. C'est bien vrai, nous avons des entrepreneurs, des gens que nous avons formés, ils sont allés sur le terrain, mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que le système mis en place ne favorise pas le développement. C'est pourquoi nous disons qu'il faut revoir. Vous savez, et en politique ou ailleurs, tout ce que le citoyen veut, ce n'est pas qui gouverne, qui fait quoi. C'est quand il sort au soir qu'il mange à sa faim.
C'est la satisfaction de ses besoins.
Voilà. Donc, l'entrepreneuriat, nous savons que les choses ne sont pas comme ils devaient être dans notre pays. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez prendre le peu de moyens que vous avez pour se retrouver dans la Méditerranée. Alors qu'entre-temps, quand vous serez en chemin, vous serez obligé d'appeler vos parents. Vos parents vont aller chercher de l'argent, je ne sais où, pour vous envoyer encore. C'est que vous, ce n'est pas seulement votre vie qui est en danger, mais vous mettez également la vie de votre famille en danger. D'accord. C'est ça la réalité.
D'accord, c'est ça la réalité. Merci beaucoup, Brett Safiaga, président du Conseil international pour l'immigration, l'entrepreneuriat et l'emploi si international, d'être passé alors dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est un plaisir partagé.
D'accord, merci beaucoup. Merci, Jean Polérini, d'avoir aussi participé à cette émission. Et merci, Ambroise Kondo, d'être passé aussi dans cette émission. Nous sommes à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous et d'animer ce débat avec vous. Merci à Michel Domega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Géraud Akoucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Portez-vous bien. Au revoir.